Vous écoutez, on lit pour vous.
Les derniers captifs, un texte de Johan Bourgoin, paru le 9 octobre 2025 dans la presse. Les grands cétacés que sont les bélugas ne sont pas faits pour vivre en captivité, explique l'auteur et biologiste Johan Bourgoin. Les lois ont évolué à ce sujet, mais n'ont rien prévu pour ceux qui vivent déjà dans des conditions inadaptées, comme ceux de Marineland, Niagara, en Ontario. En ce matin d'octobre 2025, 30 bélugas nagent dans l'incertitude au parc Marineland, Niagara, prisonniers d'un chantage aussi cynique que révoltant. Leurs propriétaires menacent de les tuer si Ottawa refuse de financer leur entretien. Cette tragédie annoncée n'est pas seulement un scandale animalier, c'est le symptôme d'un système défaillant qui, depuis des décennies, a transformé des mammifères marins en objets de profit. Delphinapterus leucas, le béluga, évoluait autrefois librement dans les eaux arctiques bien avant que l'animal humain n'imagine l'enfermer pour son divertissement. Ces individus, conscients, dotés d'une intelligence remarquable, capables d'apprentissage complexe, d'éco-localisation, ayant la faculté de reconnaître leurs semblables et de tisser des liens familiaux durables, ne peuvent survivre dignement en captivité. La biologie de la conservation nous enseigne que la captivité prolongée des cétacés engendre des pathologies irréversibles. Le cortisol, hormone du stress, atteint chez ces animaux des niveaux chroniquement élevés, compromettant leur défense immunitaire et réduisant leur espérance de vie. Des stéréotypies comportementales, ces mouvements répétitifs et sans but, témoignent quant à eux d'une détresse psychologique profonde. Les 20 morts survenues depuis 2019 dans cette même installation en sont une preuve éloquente. Maladies rénales, infections récurrentes, stress chronique. Rien dans la captivité ne peut répondre à leurs besoins, encore moins à la complexité de leur monde intérieur. Pourtant, face à cette hécatombe, l'inaction demeure. Plus de 220 inspections depuis 2020, des amendes dérisoires de 85 000 $, des accusations criminelles sans suite. Notre système réglementaire tient davantage du théâtre de complaisance que d'une protection effective de la faune. Alors, comment accepter qu'en 2025, au Canada, des entreprises puissent encore brandir la menace d'une euthanasie massive comme levier de négociation? Ces dernières années, tant en France qu'au Canada, des lois ont banni la captivité des cétacés. Mais aucune ne prévoit le sort réservé aux individus déjà captifs. Et pendant que le propriétaire et le gouvernement se livrent une lutte de pouvoir, ce sont eux, les bélugas, qui en paient le prix. La ministre des Pêches a eu raison de refuser l'exportation vers la Chine. Toutes les baleines appartiennent à l'océan, pas à des bassins conçus pour le divertissement, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse. Cette vérité, aussi simple que fondamentale, devrait guider toutes nos décisions, y compris celles qui concernent les autres animaux. Mais refuser l'exportation sans prévoir de solution de rechange viable, c'est aussi condamner ces individus à mourir lentement, dans une certaine indifférence. Un sanctuaire au point mort. Depuis 2020, le Whale Sanctuary Project promet un havre de 40 hectares en Nouvelle-Écosse pour ses cétacés condamnés. Mais cette solution, présentée comme imminente, demeure pour l'instant un coûteux mirage. Car, malgré 20 millions de dollars collectés et 5 années d'études environnementales, le sanctuaire de Port Alfred Bay n'existe que sur le papier. Pire, il est aujourd'hui au point mort, bloqué par l'opposition de propriétaires riverains qui refusent leur consentement unanime exigé par la loi provinciale. La France, d'ailleurs, a rejeté en janvier l'offre du sanctuaire d'accueillir ses orques, Wiki et Keijo, jugeant les eaux néo-écossaises trop froides et le projet insuffisamment avancé. Ici, l'ironie est cruelle. Nous avons, malgré de bonnes intentions, bâti un système légal interdisant la captivité sans créer les infrastructures de sortie, condamnant ainsi les derniers captifs à une mort programmée. Cette affaire, comme tant d'autres avant elle, dépasse le sort des 30 bélugas de Marineland. Elle révèle la faille originelle de notre rapport au monde. Cette hiérarchisation du vivant qui place l'humain au sommet et relègue les autres à l'état d'objet. Tant que nous persisterons à mesurer la valeur d'une vie à son utilité pour l'animal humain, nous reproduirons la même tragédie, sans arrêt, sous d'autres noms, derrière d'autres barreaux. Ce n'est donc pas la nature qu'il faut libérer, c'est notre regard. C'était « Les derniers captifs », un texte de Johan Bourgoin paru le 9 octobre 2025 dans la presse.
Quand les pôles magnétiques voyagent. Un texte de Mathieu Perrault paru le 9 novembre 2025 dans la presse. Depuis 50 ans, le pôle Nord a quitté le Canada et se rapproche de plus en plus de la Russie. Et dans l'Atlantique Sud, un trou dans le champ magnétique terrestre s'agrandit d'année en année, perturbant les satellites et exposant les avions à plus de rayonnement. Des chercheurs tentent de comprendre ce qui cause ces excursions magnétiques. Le pôle Nord magnétique se déplace très vite vers la Sibérie. On cherche à comprendre pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, explique Juliette Girard, océanographe de l'Université du Québec à Rimouski, UQAR, qui vient de publier dans la revue Geochemistry, Geophysics, Geosystems, une étude sur l'évolution du champ magnétique en Arctique depuis 6000 ans. En 50 ans, le pôle Nord magnétique s'est déplacé de près de 2000 km dans l'océan Arctique, du Nunavut vers les eaux internationales revendiquées par la Russie et le Danemark. Ce mouvement s'accélère. Le déplacement n'avait été que de 400 km entre 1831, l'année de la découverte du pôle Nord magnétique, et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pôle Nord géographique, lui, ne bouge pas. Plus au sud, au-dessus du Brésil et de l'océan, une autre zone anormale du champ magnétique terrestre augmente la fréquence des pannes sur les satellites qui survolent la région et pourrait accroître les risques de cancer pour ceux qui travaillent à bord des avions qui y circulent. Cette zone anormale dans l'Atlantique Sud se déplace aussi rapidement. L'ABC du géomagnétisme. Le champ magnétique terrestre décrit un arc de cercle qui s'éloigne de la Terre à partir du pôle Nord puis s'en rapproche au pôle sud. Le champ magnétique n'est pas uniforme sur toute la surface de la Terre, précise Mme Girard. Il est créé par la rotation d'une partie liquide du noyau de la Terre, du fer liquide qui tourne à une vitesse de quelques millimètres par seconde, indique Andy Biggin, géologue de l'Université de Liverpool, en Angleterre, qui étudie les variations du champ magnétique terrestre qui se sont produites depuis 400 millions d'années. Le mouvement du fer liquide agit comme la dynamo d'un vélo ou d'une centrale hydroélectrique. Il y a deux hypothèses pour expliquer les changements dans le temps du changement magnétique. et le fait qu'il n'est pas uniforme. Avance John Tarduno de l'Université de Rochester, dans l'État de New York, qui a beaucoup publié sur le géomagnétisme. Soit les changements viennent d'une variation dans la vitesse du noyau liquide, soit ils sont causés par des interactions entre la partie liquide du noyau et des aspérités dans le manteau terrestre, la partie entre le noyau et la croûte terrestre. Je pense, comme beaucoup de collègues, que ces changements géographiques et temporels sont liés à des interactions entre le noyau liquide et le manteau terrestre, souligne M. Tarduno. Inversions et excursions. Ces anomalies au pôle Nord et dans l'Atlantique Sud ont poussé certains chercheurs à postuler que la Terre est sur le point de connaître une excursion magnétique, un changement rapide de position des pôles, qui pourrait aller jusqu'à l'équateur. La dernière excursion magnétique est survenue il y a 41 000 ans et a duré 800 ans. Il est possible qu'une autre excursion magnétique, moins importante, se soit produite il y a 17 000 ans. Lors d'une excursion magnétique, le champ magnétique est beaucoup plus faible et il y a davantage de vent solaire qui pénètre dans l'atmosphère. Ça aurait des effets négatifs sur la vie et sur les réseaux et appareils électroniques, confirme Guillaume Saint-Onge, titulaire de la chaire de recherche en géologie marine à l'UQAR. La demi-douzaine d'experts interviewés par la presse estiment que la prochaine excursion magnétique ne surviendra pas avant plusieurs décennies, probablement plusieurs siècles. Julien Aubert, de l'Institut de physique du Globe de Paris, IPGP, pense même qu'elle n'aura pas lieu avant 1000 à 2000 ans. Un autre phénomène magnétique, encore plus important, est l'inversion des pôles. Le pôle Nord devient le pôle Sud et vice-versa, indique M. Saint-Onge. La dernière inversion magnétique est survenue voilà 780 000 ans. Le processus d'inversion a duré quelques millénaires, au cours desquels la Terre était beaucoup moins bien protégée du vent solaire et de ses effets négatifs. Satellites et cancers. L'anomalie géomagnétique qui fait que le pôle Nord se promène est une zone où le champ magnétique est plus fort. Dans l'Atlantique Sud et au-dessus du Brésil, ce qui se produit, c'est un niveau d'intensité plus faible de magnétisme dans ce secteur, comme une trouée dans le champ magnétique entourant la Terre. On parle d'une baisse accélérée du champ magnétique depuis les dernières décennies, dit Javier Pavón de l'Université Complutense de Madrid, UCM, spécialiste de l'anomalie de l'Atlantique Sud. On est maintenant 30 % plus faible que le reste de la planète. Ce champ magnétique plus faible a deux conséquences négatives, selon Julien Aubert. Les satellites et les avions qui passent au-dessus de la région sont davantage exposés au vent solaire, dit-il. Des satellites plus vieux ont connu une fin de vie précoce. Et il faut protéger davantage les satellites qui survolent cette région. M. Aubert cite l'un des trois satellites européens, Swarm, lancé en 2013, dont des instruments ont flanché presque immédiatement à cause de l'anomalie géomagnétique sud-atlantique. Les pilotes d'avions et agents de bord sont, quant à eux, soumis à des radiations plus grandes que sur d'autres liaisons, ajoute-t-il. Javier Pavón travaille à prédire la trajectoire et l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud. On sait qu'elle est passée de l'Afrique à l'Amérique du Sud en 4 siècles. Il y a un débat pour déterminer si cette anomalie est la même qu'une anomalie géomagnétique qui a existé dans l'est de l'océan Indien au 12e siècle, qui semble ensuite s'être déplacée vers l'ouest. Le paléogéomagnétisme. La prédiction sur l'avenir des anomalies géomagnétiques du pôle Nord et de l'Atlantique Sud est basée sur le passé. Il y a des mesures fiables du magnétisme terrestre depuis les années 1840. Pour remonter plus loin, il faut interroger les sites archéologiques et les traces biologiques paléontologiques. Juliette Girard, par exemple, a pu reconstruire l'emplacement du pôle Nord dans les 6000 dernières années à partir de sédiments de l'est du Groenland. Elle travaille maintenant sur des sédiments lacustres du Labrador qui permettront d'avoir une meilleure résolution temporelle. Actuellement, on peut avoir une précision de quelques dizaines d'années pour l'emplacement du pôle Nord, dit-elle. Avec ces sédiments lacustres, on pourra avoir une précision de l'ordre d'une année. En savoir plus, source USGS. 1250 km. Rayon du noyau solide au centre de la Terre. 2200 km. Rayon du noyau liquide de la Terre. 2900 km. Épaisseur du manteau terrestre. Moins de 100 km. Épaisseur de la croûte terrestre. C'était « Quand les pôles magnétiques voyagent », un texte de Mathieu Perrault paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.
Cent ans sans solitude. Un texte de Karine Tremblay paru le 9 novembre 2025 dans La Tribune. Lionel Roy et Serge Gauthier n'ont aucun lien de sang, mais ils agissent l'un envers l'autre comme père et fils. C'est avec Serge que j'ai d'abord discuté. Il m'a parlé de la gentillesse de Lionel, qui a eu 100 ans l'été dernier, et dont il a été l'aidant naturel pendant quelques années, lorsque le vieil homme était encore assez autonome pour demeurer chez lui. Je me suis rendu au CHSLD, où vit désormais le centenaire, pour les rencontrer tous les deux. J'ai été touché par la force du lien entre eux. Cette attention à l'autre, généreuse, qu'ils ont eue chacun à leur tour, chacun leur temps. Le visage de Lionel s'éclaire lorsqu'il voit entrer Serge. C'est sa nièce Renée qui nous accueille. L'après-midi a des airs de retrouvailles familiales. Dans la petite chambre du pavillon Ergil, la fenêtre laisse entrer un filet de lumière. Quelques photos au mur et sur la table de chevet racontent différentes époques, différents pans de vie. Ici, ce sont mes cousins Denis et Daniel, les deux fils de Lionel, pointe René. Denis a un sourire franc sur le cliché. Le même qu'à l'époque de l'école secondaire où Serge et lui se sont connus. Ils sont vite devenus d'inséparables amis. Citation. La première fois que je suis allé chez les rois, je devais avoir 15 ans. C'était du monde vraiment gentil, on se sentait bien chez eux, raconte Serge, fin de citation. Il ne le savait pas encore, alors, mais il venait de trouver une seconde famille, en quelque sorte. L'amitié créée avec le clan roi a traversé les décennies et les épreuves. La plus grande, la plus terrible, c'est sans doute la mort de Denis en décembre 2007. Citation. C'était complètement inattendu. Il a eu un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en voyage en Thaïlande à l'âge de seulement 48 ans. Résume Serge, fin de citation. Le choc a été grand. Ça aurait pu marquer un éloignement, mais non. Citation. Serge n'a jamais oublié un anniversaire. Il a toujours gardé contact avec notre famille, indique René. Fin de citation. Autre citation. Lorsqu'il était étudiant, c'était déjà un jeune homme sage et très poli, toujours à l'écoute des autres, se souvient Lionel Roy. Fin de citation. Sa mémoire des événements récents est parfois chancelante, mais il se rappelle de chaque moment de son passé au sein d'une fratrie de 5 garçons, 4 filles. L'écouter évoquer ses souvenirs, c'est comme plonger dans un roman d'époque. Citation. J'étais le 4e de la famille. On était occupé avec la ferme et les chantiers dans le bois, dans le coin de Saint-Élie. On prenait soin de nos animaux. Il y avait là une grande liberté, même si c'était beaucoup de travail. Fin de citation. La débrouillardise était une dame de compagnie obligée, dans ce temps-là où il n'y avait pas de commodité et où tout était fait à la main. Citation. La pauvreté était partout, mais on ne manquait de rien. En campagne, tout le monde s'aidait, insiste Lionel. Fin de citation. Le premier petit luxe est venu tard. Citation. Mon père a été le premier dans le rang à avoir la télé. On n'avait pas encore l'électricité, alors c'était une télévision en batterie. Elle servait seulement à écouter ce qui en valait la peine. Fin de citation. Ce qui en valait la peine pour Lionel avait le nom de Séraphin Poudrier. Il sourit encore en repensant aux épisodes du téléroman, ajoute que dans cette hier de l'autre siècle, il y avait peu d'agréments pour se changer les idées au quotidien. Citation. C'était pas compliqué. On réunissait la famille et on faisait de la musique. Un soir chez l'un, un soir chez l'autre. On dansait les 7 carrés. C'était ça, nos veillées. Fin de citation. Dans l'éventail de ses souvenirs, il y a un événement qui a bousculé son parcours et marqué au fer rouge l'année de ses 7 ans. Citation. Ça s'est passé près de l'école. Les plus grands nous donnaient souvent des coups de pied pour nous embêter. Cette fois-là, ils m'ont cassé une jambe. Dans le temps, il fallait marcher 2,5 miles pour se rendre en classe, sur des chemins qui n'en étaient pas. Je braillais. J'avais terriblement mal. J'ai eu de la difficulté à rentrer chez moi. Après ça, j'ai été 2 ans sans pouvoir aller à l'école, et je pense que c'était ça, le pire. Fin de citation. Lionel Centenaire. Sa jambe est encore marquée par le traumatisme. Un trou plus gros qu'une balle de golf déforme son mollet. Citation. Ça faisait mal, quelque chose de laide. Des morceaux d'os sortaient de la plaie. Ça ressemblait à des arêtes de poisson. Le docteur a dit à mes parents que je devais rester tranquille. Je voyais les autres enfants jouer et moi, je ne pouvais rien faire. Fin de citation. Une vieille chaise de cuisine sans dossier est devenue la marchette sur laquelle il s'appuyait. La famille a consulté un ramancheur. C'était au-delà de ses compétences. Citation. Il nous a envoyé voir un monsieur qui avait appris à soigner les fractures des moutons chez les cultivateurs. Il me parlait en faisant des manœuvres. Il m'a strappé la jambe, m'a dit que ça irait. Ça a finalement guéri. Fin de citation. Lionel Roy. Le retour à l'école a été heureux, mais trop court. C'était l'époque. Citation. À partir du moment où tu étais capable de lever une hache, l'école était finie. J'ai juste une 4e année. À 14 ans, je travaillais. J'ai été chanceux, je suis rentré chez Bell, où j'ai été monteur de ligne toute ma vie, malgré mon handicap. Fin de citation. Monteur de ligne, ça voulait dire grimper dans les poteaux, éperon au pied. Citation. Je n'avais pas peur des hauteurs. Même qu'un Noël, j'avais installé un sapin illuminé sur le toit de l'église Marie-Médiatrice de la rue Galt, sans le dire à personne. J'avais eu la permission de mes patrons de prendre l'échelle du camion. Il n'y avait qu'avec ça qu'on pouvait monter aussi haut. Fin de citation. Lionel Roy. L'arbre scintillant attirait les regards autant que les commentaires. Citation. Les gens ne comprenaient pas comment il avait pu se retrouver là. Je ne m'en suis pas trop vanté. Fin de citation. Il n'a pas, guillemets, je ne sais, fin de guillemets non plus, m'assure-t-il en précisant qu'il a rencontré sa Jeannine alors qu'il travaillait déjà chez Bell lors d'un contrat à East Broughton. Ils se sont mariés en 1952 et ont passé toute leur vie ensemble. Regard posé sur leur portrait de ce jour-là, en noir et blanc. Une larme mouille la joue de Lionel. Citation. C'était une roi, elle aussi. Elle a pris mon nom et a gardé le sien. En février 2020, juste avant la pandémie, Jeannine a dû aller vivre en foyer. C'est après ce moment-là que Serge est devenu l'aidant naturel de Lionel. Citation. Daniel, le frère de Denis, habite à Vancouver. Il m'a demandé si je pouvais prendre soin de son père. J'ai dit oui. Fin de citation. Pendant 3 ans, tous les jours de la semaine, Serge rendait chez Lionel, faisait son dîner, son souper, ses courses et l'amenait à ses rendez-vous. Citation. On allait aussi voir Jeannine. Fin de citation. Il croisait souvent René, qui, elle, s'est occupée de sa tante jusqu'à son décès en 2023. C'est fort, les liens du cœur. Quand ça génère autant de générosité intergénérationnelle, c'est touchant à voir. Citation. Elle m'a beaucoup donné, lui aussi, intervient Serge. Quand mes enfants étaient bébés, sa femme et lui les ont gardés. Ils étaient un peu comme d'autres grands-parents. Fin de citation. Lionel est ému. Souvent, pendant la rencontre, il s'étonne de recevoir autant d'attention. Sa nièce lui répond avec douceur qu'il récolte ce qu'il a semé. Citation. Tu ne connais pas la rancune. Je ne t'ai jamais vu fâché. Fin de citation. Le vieillard sourit, résume ce que lui ont appris 100 ans de vie. Citation. Ma mère disait qu'on n'avait pas le temps pour ça, se fâcher ou chialer. Elle avait raison. On traverse toutes sortes de choses, mais il faut continuer d'avancer en acceptant ce qui arrive. Fin de citation. C'était 100 ans sans solitude, un texte de Karine Tremblay paru le 9 novembre 2025 dans La Tribune.